Studio Tamani, voici nos informations en français.
Il est 8h à Bamako, la même heure à Kundian, c'est dans le cercle de Bafoulabé. Mesdames, messieurs, bonjour, voici le journal. Les activités d'orpaillage suspendues du 15 juin au 30 septembre 2022 dans le pays. L'annonce est faite par le gouvernement dans un communiqué. Des orpailleurs de Kanyaba et Kadjolo estiment que cet arrêt n'est pas possible pour diverses raisons. À quelques jours de la fête de Tabaski, les banques sont prises d'assaut par les clients. Les responsables de ces établissements assurent que des mesures sont prises pour satisfaire tout le monde. À Markala, le poisson est devenu une denrée rare. L'insécurité et le changement climatique y sont pour quelque chose. Les détails avec notre envoyé spécial dans ce journal. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Le ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau annonce dans un communiqué la suspension des activités d'orpaillage du 15 juin au 30 septembre 2022 dans le pays. La décision a pour but, selon le département, de sécuriser les orpailleurs et d'inciter ceux-ci aux travaux champêtres. Cette nouvelle n'est pas favorablement accueillie par les concernés, car certains orpailleurs affirment que l'orpaillage est la seule activité lucrative dans leur localité respective, leur permettant d'avoir des moyens de subsistance. Le reportage de Aïssa Tadjara avec le concours de nos correspondants.
Les risques d'éboulement des sites d'orpaillage sont très élevés pendant la saison pluvieuse. C'est pourquoi le ministère des Mines a décidé d'interdire l'exploitation artisanale de l'or jusqu'au 30 septembre. Pour son chargé de communication, Bay Koulibaly, cette mesure a pour but également d'exhorter les bras valides à se consacrer aux travaux champêtres.
C'est pour des mesures de sécurité. La sécurité sur ce site est très précaire. En saison de pluie, souvent qui peut mettre la vie de ceux-là en danger, mais également faut tout ce qu'on dit que le programme de développement qu'on fait c'est basé sur vraiment une bonne pluviété mais également de bonnes récoltes. Donc permettre à ces jeunes-là d'aller dans les champs et d'aller travailler.
Des orpailleurs de Kanyaba et Kadjolo disent comprendre la décision des autorités. Cependant, d'après eux, l'arrêt des activités n'est pas envisageable pour diverses raisons.
Pendant l'hivernage, on arrête de travailler dans les sites d'orpaillage pour une raison, s'ils donnent des possibilités. En cas d'arrêt, comment faire pour avoir des pestes et des engrais pour nos cultures.
Imagine, l'engrais fait 50 000 hectares, la terre fait 35 000 hectares. Si tu n'as pas de moyens, tu ne peux pas travailler au champ. Il y a beaucoup de gens, c'est grâce aux mines là qu'ils ont laissé d'être bandits, d'être délinquants.
L'arrêt des activités d'orpaillage ne nous arrange pas. Nos époux n'ont pas d'autres moyens. Moi-même, j'ai 6 enfants et mon mari ne travaille pas.
En attendant, l'État entend solliciter les autorités administratives et coutumières ainsi que la société civile des zones concernées pour une meilleure application de cette mesure.
Reportage signé Aïssa Tadjara avec le concours de nos correspondants. Vous pouvez réagir à ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Le président de la transition a procédé hier mardi 5 juillet à Nioro du Sahel au lancement officiel du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire au Mali. Ce plan d'urgence, selon le colonel Assimi Goïta, permet à 2,5 millions de nos compatriotes en difficulté alimentaire de vivre dignement pendant cette période de soudure. Il va surtout aider le monde rural à mieux affronter cette campagne agricole, a indiqué le président de la transition. Le syndicat des travailleurs de l'hôpital du Point G compte entamer un mouvement de grève à partir de ce mercredi 6 juillet 2022. Il demande le retour d'un responsable syndical affecté dans un autre département et l'arrêt des intimidations à l'encontre de ses membres. Si rien n'est fait, les travailleurs menacent de tenir un sitting devant l'hôpital avant d'entamer plusieurs jours d'arrêt de travail à partir du 14 juillet 2022. Écoutons Dr Guida Landouré, secrétaire général adjoint du syndicat de l'hôpital du Point G. Il est au micro de Mamadou Samassiko.
Depuis janvier 2022, nos agents passent des nuits de garde. On n'a pas encore l'argent de nos nuits de garde. Les ristournes sont pareilles. Les ristournes devaient être données le 3 avril 2022. Mais à présent, ça n'a pas été complètement payé. Le troisième problème, l'insalubrité qui sévit à l'hôpital. Alors que l'hygiène est la première des choses à faire au niveau de l'hôpital. Le quatrième point, il est vrai qu'il y a eu des investissements. Mais le matériel, il ne sert à rien si le consommable n'est pas là. Nous sommes en perpétuelle rupture des consommables au niveau du laboratoire. Si on ne paye pas nos primes de garde en retard, à partir de 8 heures, on commencera des sit-ins devant l'hôpital jusqu'au 13.
8h05 à Banjagara. Plus d'une centaine de femmes ont manifesté leur colère hier devant le gouvernorat de cette région. Elles ont demandé la sécurisation de la commune de Doukombo, située à 5 km de la ville de Banjagara. De nombreux habitants de cette localité ont fui cette localité ces derniers temps à cause de l'insécurité. Le reportage de notre correspondant Adama Djigiba depuis Banjagara.
Ces femmes étaient allongées sur le sol, en larmes, criant de toutes leurs forces. Certaines d'entre elles étaient habillées en tenue traditionnelle de veuve. Trop, c'est trop, nous sommes fatigués dans l'insécurité. Scandaient les manifestantes devant le gouvernorat de Banjagara.
Les raisons qui m'ont poussée à venir à Banjagara, c'est parce qu'on n'a plus de mari ni d'enfants. Rien. Le nombre d'orphelins a augmenté dans le village de Songo. Nous avons trop souffert. Hier, 3 hommes sont décédés en partant à Banjagara.
Le gouverneur de la région a tenté de les rassurer. Sidi Mohamed El Béchir, chef de l'exécutif régional de Banjagara, promet de tout mettre en œuvre pour la sécurité des personnes et de leurs biens.
J'ai compris votre message et votre désespoir. Ce qui est écrit ici, c'est notre souhait. Rien ne peut marcher s'il n'y a pas d'entente entre le gouverneur et le gouverné. Votre message sera transmis à qui de droit.
Cette sortie des femmes intervient quelques jours après le massacre de plus de 130 civils dans le cercle de Bankas, région de Banjagara. C'était depuis Banjagara, Adama Djigiba pour Sidio Tamani.
Retour à Bamako, le numerus clausus est désormais suspendu à la faculté de médecine et d'odontostomatologie de Bamako. Ce système limitait le nombre d'étudiants de la première année qui doivent passer pour la deuxième année. Selon les responsables de la faculté de médecine, la mesure a montré ses limites car elle est à la base de l'effectif pléthorique au sein de la faculté. Professeur Yakuba Toloba, chef de département à la faculté de médecine et d'odontostomatologie de Bamako, est au micro de Oumar Waïgalo.
Le système numérique clausus a montré ses limites. Nous avons vu qu'il y a eu plus d'impact négatif que d'impact positif. Nous avons compris que ce numérus clausus-là a amené à un effectif pléthorique, surtout en première année. Un exemple, quand les étudiants passent au baccalauréat, il peut venir 3000 en faculté de médecine de première année. Et si nous avons besoin de 400 personnes, après avoir retiré ces 400 personnes, les 2000 et qu'elles restent. Et l'année suivante, 2000 vont venir encore. De telle sorte que la première année constitue le tiers de l'effectif de l'ensemble de la faculté. Voilà, on applique les critères. Les critères vont retenir. Donc, il faut faire la science expérimentale, l'âge 21 ans ou plus, et puis avoir au minimum 12 de moyenne. Quand on applique ces critères, il n'y aura pas plus de 500 ou 600 étudiants à la fac de médecine.
Direction Markala dans la région de Ségou où le poisson se fait rare et le prix inaccessible. L'insécurité et le changement climatique ont rendu la pêche difficile dans cette zone piscicole pour les pêcheurs. Le prix du poisson varie entre 1750 francs et 3500 francs CFA le kilogramme. Le reportage à Markala du Arkia Touré et Mohamed Sissé.
On est bien sûr à Markala, une ville installée sur les berges du fleuve Niger à 35 km de Ségou. Mais les poissons se font rares ici et son prix a flambé, indiquent ces vendeuses de poissons sous des hangars non loin du barrage de Markala. Elles dénoncent la rupture dans la chaîne d'approvisionnement entraînée par les conflits et l'insécurité dans la région de Ségou.
Le poisson n'est pas abordable à Markala parce que ceux qui nous servent avant sont empêchés par la crise.
On payait 1 kg de capitaine à 2500 francs avec les pêcheurs. Mais on l'achète à 3000 francs CFA actuellement et les revendre à 3250 francs CFA.
Plusieurs villages ont été déplacés. La pêche était beaucoup pratiquée à Doura, Molodo, Galamba Diakoro, mais aujourd'hui, aucun habitant de ces localités ne peut accéder au fleuve.
Le poisson est une denrée de consommation courante dans cette ville. Les consommateurs appellent les autorités à s'impliquer dans le retour de la sécurité.
Je mange du poisson, mais pour moi, cette cherté, elle est normale du point de vue de la situation du pays.
Et pourtant, il y a des poissons dans le fleuve. Ceux qui viennent pour pêcher, on les chasse vraiment, qu'ils essaient de mettre en place une base militaire dans l'office du Niger.
Non, on souffre beaucoup.
Le changement climatique est aussi un autre facteur à l'origine de la rareté du poisson. À Markala, explique Lassine Kanta, président des pêcheurs de Markala.
Auparavant, on faisait des bénéfices. Maintenant, la crise des poissons est partout. Pour moi, cela est dû à l'assèchement du fleuve et le changement climatique. Sinon, on pourrait avoir du poisson.
Arkia Touré, Mohamed Sissé, de retour de Markala pour Studio Tamani.
La communauté musulmane s'apprête à commémorer l'Aïd el-Kébir prévu pour ce samedi 9 juillet. À quelques jours de cette fête, c'est une grosse affluence au niveau des banques et établissements financiers de Bamako. Certains clients s'impatientent, d'autres affichent déjà un sourire à leur sortie des banques. Notre reporter Moussa Mali Sissoko a fait un tour en ville. Voici son reportage.
Bamako, la capitale, vibre au rythme de l'ambiance de la fête. Les banques font partie des lieux les plus fréquentés en ce moment. Les clients se bousculent au portillon pour être servis. Certains sont venus même demander des crédits à leur banque en vue de couvrir les dépenses de la fête.
Oui, c'est pour un prêt. La banque, bon, là où on est maintenant, là, c'est pas du tout facile pour cela qu'on est venu. Bon, ça n'a pas encore abouti d'abord. Il y a un petit erreur dans mon papier, je vais voir après.
C'est une réalité. Les gens vraiment cherchent maintenant de l'argent, surtout des prêts pour la préparatif de la fête.
Cependant, d'autres disent prendre quelques précautions pour supporter les charges liées à la fête.
Nous, on a eu notre salaire. Malheureusement, ça ne suffit pas. Parce qu'avec la situation, tu es obligé d'aider les parents, des voisins, des amis.
Alhamdoulilah, bon, donc de mon côté, je n'ai pas de problème avec les dépenses à venir là.
Je suis venu faire une opération. Je rentre satisfaite à la maison.
Les responsables des banques entendent satisfaire la clientèle afin que celle-ci puisse mieux célébrer l'Aïd el-Kébir.
8h11 à Tomignan dans la région de Sang. Chaque année, le comité AIM de l'Institut de formation des maîtres IFM Nouzo Diara de Tomignan organise la semaine culturelle au sein de l'établissement. Pour cette année, elle s'est déroulée du 1er au 5 juillet 2022. Durant une semaine, les élèves maîtres se sont retrouvés avec le corps professoral et l'administration autour des activités artistiques, culturelles et sportives. Quelle est l'importance de cette semaine culturelle dans la formation du jeune maître? Élément de réponse dans ce reportage signé notre correspondant Issiaka Koulibaly.
Des sketchs, des chorégraphies, des matchs de football, entre autres, ont marqué cette semaine culturelle de l'IFM de Tomignan. Des élèves maîtres saluent ce moment de retrouvailles qui renforce la cohésion au sein de l'établissement.
Quand on se regroupe, ça sera quelque chose de surprise qui sera gravé dans notre mémoire.
La fête, là, ça nous permet de tisser des liens.
Nous sommes tous réunis ici, ça montre qu'il y a la paix entre nous, il y a la cohésion.
L'Institut de formation des maîtres est le seul établissement qui organise une semaine culturelle à Tomignan. Selon son directeur, Issa Bokar Haïdara, ses activités, en plus de montrer la diversité culturelle du pays, participent à la formation pédagogique.
À la conception même des instituts de formation des maîtres, vers les années 2000, toutes les communautés culturelles s'y retrouvent. C'est tout à fait normal qu'on prenne une semaine culturelle qui va nous permettre d'organiser des cérémonies intéressantes au cours desquelles chaque ethnie, chaque communauté nous présente quelque chose.
Ici, à l'IFM de Tomignan, élèves et corps enseignants souhaitent la pérennisation de la semaine culturelle et sportive. Issiaka Koulibaly de Tomignan pour Studio Tamani.
Studio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse, de la République tchèque et par l'Union européenne.
Actualité à l'intérieur du pays en quelques brèves. Une campagne de distribution de médicaments contre la bilharziose est en cours depuis le 3 juillet 2022 dans le district sanitaire de Sang. Des responsables socio-sanitaires précisent que 141 991 enfants de 5 à 14 ans sont concernés par la campagne. La stratégie adoptée est celle du porte-à-porte. Cette distribution de masse va durer 5 jours. quelques jours de l'affaire de Tabaski, les prix des moutons varient entre 90 000 et 275 000 francs CFA à Banamba, dans le sud du pays, à Bourem, au nord du pays. Les moutons sont cédés entre 125 000 et 160 000 francs CFA. Une première selon les habitants de la ville. Les commerçants imputent cette hausse à l'augmentation du prix de l'aliment bétail. Deux magasins ont été cambriolés la semaine dernière à Demeke, localité située à 15 km d'Oussoubidjania dans la région de Kaï. Les voleurs ont emporté des marchandises et une grosse somme d'argent, témoignent des sources locales. Ces mêmes sources indiquent que le village n'a jamais connu ce genre de cambriolage. Des enquêtes seraient en cours pour retrouver les délinquants. À 8h passées de 15 minutes, se referme cette édition qui vous a été présentée par Sikou Gadjigo, mise en onde de Mamadou Ouattara. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, Idrissa Sakho sera là pour la version Bamanankan de cette édition. Mais vous pouvez la réécouter sur notre site studiotamani.org ou en appelant au 37 320. Le Centre régional de médecine traditionnelle de Bandiagara transforme des extraits de plantes en médicaments depuis 1986. Il produit aujourd'hui 8 médicaments qui traitent notamment le paludisme, la dysenterie, l'ulcère gastrique et l'hépatite. Selon l'administrateur du centre régional, ces médicaments sont aussi vendus dans les rayons de pharmacie au Mali et hors du pays. Moussa Tembili répond aux questions de notre correspondant à Bandiagara, Adama Djigiba.
Le Centre régional de médecine traditionnelle est né suite à un accord de coopération entre le gouvernement malien et le gouvernement italien. Ça, c'est depuis les années 86. Donc, de 86 à 92, la coopération, elle est éteinte. Avec l'extinction, donc, il va de soi que ça soit géré au ministère de la Santé.
Qu'est-ce que ça représente pour la population?
Bon, son objectif, c'est d'organiser ces guérisseurs traditionnels en association pour mieux défendre leurs intérêts et également bouter à jamais les problèmes de santé qui peut être confronté la population du pays d'Ogon. Je peux même permettre de le dire, la population du centre. Ce centre est une opportunité pour Bandiagara. Nous produisons beaucoup de plantes. Ça lutte également contre la pauvreté. Actuellement, nous sommes 6 agents qui sommes là. Mais on avait un labo. Le labo est fermé pour manque de personnel.
Quels sont les différents médicaments que le centre produit alors?
8 produits qui sont vendus même dans les rayons des pharmacies. Le balembo, enfant et adulte, ça c'est contre la toux. Le dysentéral contre la dysenterie, les amibiases et les diarrhées. Le gastrocédal contre les ulcères gastriques. L'hépatisane contre l'hépatite, l'itacivirale matinale et l'inappétence et allergie à la graisse et aux effets cholérétiques et coliques. Le samanere qu'on appelle Entanda Africana qui lutte contre l'hépatite et le paludisme et l'ictère. Le malarial 5, le paludisme, les effets grippal et paragrippal. Le laxacacia, ça c'est contre la constipation. Pomade sorospermim, ça c'est contre les eczémas, ça veut dire les grattages, les teignes et autres choses.
Ces médicaments sont consommés uniquement à Bandiagara ou est-ce qu'ils sont aussi exportés ailleurs?
Bon, les produits sont exportés même dans les 4 coins du monde. Je peux me dire dans les 5 continents du monde, les produits sont partis. Les plantes les plus utilisées actuellement, c'est le malarial 5, le gastrocédal contre les ulcères gastriques, l'hépatisane, le laxacacia, le malarial 5, la pommade sorospermine.
Peut-on également savoir les défis auxquels le centre est confronté?
Nous avons vraiment un défi vers le financement sur les recherches. Parce que quand on parle de médecine traditionnelle, c'est vraiment de la recherche. Nous sommes en train de chercher des plantes, mais nous voulons vraiment un accompagnement conséquent vraiment de l'État. L'État fait un appui, on est d'accord. Mais par rapport à la recherche, l'État, même si ça vient, c'est infime, ça ne peut pas vraiment passer.